Bonsoir à toutes et à tous. Du grain à moudre, c'est aussi tout l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est donc Geoffroy Roux de Bézieux qui est devenu le nouveau visage du patronat français. Il a remporté les élections du MEDEF aujourd'hui face à Alexandre Sobo. Court portrait du vainqueur, il est le créateur de plusieurs entreprises dans les télécoms, dont les magasins The Phone House en 1996 et Virgin Mobile France en 2006. Il incarne donc la nouvelle économie. Soutenu par les patrons de la French Tech, il est l'un des leurs d'ailleurs pour avoir créé en 2008 avec Pierre Kosciusko-Morizet le fonds d'investissement des entrepreneurs Internet, l'ISAI. Il a aussi été membre de la commission Attali qui a été, on s'en souvient, le marchepied de la carrière politique d'Emmanuel Macron. Candidat malheureux en 2013 au poste donc de patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux y a occupé les fonctions de vice-président chargé de l'économie. Il en connaît donc les rouages et c'est tant mieux car les chantiers sont nombreux. La présidence de Pierre Gattaz qui s'achève laisse un syndicat de combat à l'image intransigeante, mais paradoxalement en perte d'influence à l'instar de ses homologues côté salarié. De là à changer complètement de nature, à devenir peut-être un lobby, voire un think tank comme on a pu l'entendre, la question est ouverte. Alors, à quoi sert encore le MEDEF ? C'est la question du grain à moudre d'été à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez, sur franceculture.fr. Une question à laquelle vont répondre nos trois invités de ce soir. Thibault Langsade, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez jusqu'à aujourd'hui vice-président du MEDEF chargé des TPE et PME. Vous êtes toujours PDG du groupe Jouve depuis 2017, mais vous n'avez plus de fonction au sein du MEDEF.
Et oui, ça s'est arrêté aujourd'hui avec le mandat de Pierre Gattaz, comme l'ensemble des autres mandats. C'est la règle du jeu.
Mais vous êtes quand même membre encore de ce syndicat. Michel Auferlé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'École normale supérieure et vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur les patrons et les patrons des patrons. J'en citerai deux sur l'histoire du MEDEF chez Odile Jacob et puis plus récemment Patron en France, c'était à la Découverte, publié en 2017. Notre troisième invité est journaliste, Sarah Belouezane, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc journaliste emploi au Monde sur les questions de emploi et société. Vous avez suivi avec votre collègue avec qui vous coécrivez les articles pour le quotidien du soir, Raphaël Besse-Desmoulières, les élections du MEDEF. Alors je me tourne d'abord vers vous, Thibault Langsade, puisque vous souteniez Geoffroy Roux de Bézieux, et c'est donc votre candidat qui a été élu aujourd'hui. Il faut dire que c'était le favori, même si vers la fin de la campagne, on a vu un petit peu les écarts se resserrer. Il a dit, après son élection, vouloir un syndicat de proposition. Il était le candidat de la modernisation du MEDEF. Alors quel il l'emporte avec lui? J'ai dit aussi que c'était le candidat de la nouvelle économie. C'est un peu tout ça, j'imagine.
Alors, c'est un peu tout ça, mais le réduire au candidat de la nouvelle économie n'est pas tout à fait exact. Parce que quand on regarde la carrière de Geoffroy Roux de Bézieux, il a commencé chez L'Oréal, certes une grosse entreprise, mais pas dans la nouvelle économie. Il a réussi dans The Phone House, qui était du retail. Hein. C'est, il vendait de l'équipement, des abonnements.
C'était des magasins.
Hein, c'était vraiment du retail. Et puis, c'est surtout dans le fonds Isaïe où il s'est révélé. Mais il a financé, comme beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up au travers de ce véhicule. Et puis quand on regarde les business qu'il a aujourd'hui, Olivier & Co, ça fabrique de l'huile d'olive, il a investi dans le sport. Donc oui, il comprend les problématiques de la nouvelle économie. Mais ça veut dire quoi, comprendre la problématique de la nouvelle économie? Ça veut dire que dans les enjeux patronaux, c'est comment on va adapter au mieux notre fiscalité, notre dialogue social, comment on va peser avec les corps intermédiaires pour justement représenter toutes les entreprises. C'est ça que ça veut dire la nouvelle économie. Parce que je pense qu'évidemment, il comprend les start-up, mais comment il va adapter les grands leviers que nous avons sur les enjeux qui pèsent sur les entreprises.
Et on va voir que c'est toute la difficulté pour les MEDEF avec Michel Auferlé, cette diversité finalement des adhérents, des fédérations adhérentes à cette confédération qu'est le MEDEF. Mais ne rentrons pas tout de suite dans ce type de détails. Continuons à commenter, si vous le voulez bien, cette élection de Geoffroy Roux de Bézieux avec vous, Sarah Belouezane, vous qui avez suivi cette campagne. Je le disais, c'était le favori. Qu'est-ce qu'on attendait finalement de cette élection après un mandat de Pierre Gattaz? Voilà, il faut le dire, il a fait lui-même son panégyrique dans le Figaro, mais qui a eu aussi ses détracteurs.
Alors c'était le favori, mais il faut quand même rappeler que ça a été serré, hein, que jusqu'au bout, n'en déplaise à Monsieur Langsade, on savait pas vraiment en fait si Roux de Bézieux allait l'emporter, parce que Sobo a fait une espèce de remontada impressionnante en convainquant un nombre de fédérations. Les fédérations étaient divisées d'ailleurs, plus divisées que d'habitude. Quant à ce qu'on attend de lui, on attend de lui qu'il change un peu l'image du MEDEF. Ces 5 dernières années, c'était un MEDEF de combat, avec des positions parfois un peu jugées caricaturales. Et aujourd'hui, en fait, il faut ce que les observateurs attendent, c'est un MEDEF qui a des propositions, qui se positionne peut-être un peu moins de façon radicale sur certaines questions, et qui soit en dialogue à la fois avec les syndicats et avec le gouvernement.
Oui, c'est les promesses qui sont celles de Geoffroy Roux de Bézieux, je le rappelais, mais pour finir ce premier tour de table, Michel Auferlé, sur cette élection, c'est vrai qu'on aime bien voir, vous qui connaissez bien l'histoire du MEDEF et puis du CNPF qui avait précédé à ce syndicat. On aime bien voir dans l'élection de son patron une sorte d'évolution, la marque de l'évolution de l'économie. Quand Laurence Parisot avait été élue, on avait dit « Ah tiens, voilà, ce sont les services qui l'emportent enfin vis-à-vis de l'industrie. » On sait que l'industrie garde, à travers l'UIMM, notamment le métier de la métallurgie, un fort poids dans le MEDEF. Et malgré tout, on aime bien voir cette évolution. Est-ce que là, on a encore la marque d'une évolution de l'économie à travers cette élection ?
Alors, il y a une fable qui a été lancée par le service de presse du CNPF dans les années 80, comme quoi, donc, les adhérents du MEDEF avaient fait toujours le bon choix, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils faisaient toujours, en quelque sorte, donc, le choix de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise, donc, qui correspondait parfaitement, donc, à la conjoncture politique, économique et sociale du moment. Bon. Ça a été ensuite repris par les journalistes, personnellement, donc, je mets pas mal de bémols par rapport à cette espèce de préscience, donc, des adhérents du MEDEF. En tout état de cause, lorsque vous avez dit qu'il était favori, moi, je ne suis pas sûr qu'il était favori, même si je pensais qu'il allait être élu. Je pense qu'il a dû bénéficier d'une part du fait, alors peut-être que Thibault Langsade pourra rappeler les modalités de vote, le boîtier électronique, c'est la première fois qu'on l'a pris.
Non, ça avait été utilisé pour Laurence Parisot et pour Pierre Gattaz.
Ah d'accord, bon, alors justement, parce que je pense que particulièrement cette année, moi j'ai eu un certain nombre d'échos, même lorsque la fédération donnait une consigne de vote, il n'est pas sûr que justement tous les adhérents, enfin tous les votants, et suivi. Je pense que l'UIMM, peut-être, elle-même, s'était en quelque sorte séparée en deux, puisque l'élection du président de l'UIMM, il y a 3 mois, a été 60-40. Il y avait un certain nombre de gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord pour voir le président
Rappelons, l'UIMM, c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie.
Tout à fait, qui était justement jusqu'à présent, donc la faiseuse de roi du MEDEF. Bon, ben, c'est malgré tout la troisième fois que ce n'est pas un candidat de la métallurgie. La première fois, c'était donc Gattaz-Père. Ensuite, la deuxième fois, c'est Laurence Parisot. Et la troisième fois, c'est justement donc Geoffroy Roux de Bézieux, puisque la métallurgie, je ne dirais pas qu'elle est dans l'opposition, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, le candidat qu'elle soutenait n'a pas été élu.
Pour rentrer un petit peu dans le détail, Thibault Langsade, qu'est-ce que ça dit des équilibres internes, en quelque sorte, c'est un peu de ça dont on parle, des équilibres internes au sein du MEDEF, en fonction justement de ces fédérations qui représentent soit l'industrie, soit les services, je l'ai dit, soit la nouvelle économie.
Ce qui est effectivement intéressant dans cette campagne, vous l'avez très justement dit, c'est que les équilibres n'ont pas été respectés. Habituellement, les banques et les assurances votaient ensemble. Et avait un candidat, et elles adoubaient un candidat. Là, en l'occurrence, les banques ont préféré soutenir Alexandre Sobo, et les assurances ont soutenu Geoffroy Roux de Bézieux. Et il est tout à fait probable qu'un certain nombre de personnes dans ces fédérations n'aient pas suivi les consignes, à la fois dans les banques et dans les assurances. Dans la Fédération des travaux publics et du bâtiment, ils étaient côte à côte, généralement, et ils étaient à l'unisson pour porter un candidat. Là, ils étaient séparés. Et puis, on a eu, dans des fédérations beaucoup plus petites, quand vous parliez de Geoffroy Roux de Bézieux, candidat du numérique, le Syntec numérique n'a pas soutenu. Alors, dans des conditions... on va dire, qui reste encore un peu à éclaircir, mais il n'a pas été soutenu, en tout cas, par le conseil d'administration du Syntec numérique. Et donc, on a eu des équilibres qui, effectivement, n'étaient plus les mêmes. Et pour la première fois, ce sont les territoires qui, pendant longtemps, ont été variables d'ajustement ou quantités négligeables, qui ont fait la différence, puisque l'élection a été remportée avec, finalement, une adhésion très forte des territoires sur la candidature de
Alors, vous allez nous expliquer, Sarah Bellouezen, qu'est-ce que ça veut dire quand on oppose, enfin c'est pas une façon d'opposer, mais en tout cas alors dites-nous, oui,
ce que je veux dire, c'est que
pour préciser que cette idée des territoires,
essayer d'expliquer, c'est qu'il y avait des plaques tectoniques, et ces plaques tectoniques, une fois qu'elles bougeaient, généralement elles sédentarisaient l'élection. Et là, ces plaques tectoniques, elles n'ont pas bougé dans le bon sens, et donc les grands basculement qui aurait dû donner très vite une tendance sur l'élection, et bien quand vous avez les banques et les assurances qui se séparent, ben ça fait des blocs de voix qu'on divise par deux. Quand vous avez le travaux public et la fédération du bâtiment qui se séparent, ça fait des blocs de voix qui fait que pendant longtemps, en prend quelques semaines, Alexandre Sobo et Geoffroy Houdbézieux étaient quasiment, en tout cas en apparence, côte à côte.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que tous les deux avaient des fichiers Excel où ils comptaient les voix, un peu comme dans la célèbre
House
série,
Cards.
Exactement comme dans House of Cards.
Est-ce qu'il y a des whips et des gens qui viennent là qui vont
c'était assez
récolter
simple,
les...
il y avait 560 votants,
donc ça va assez
vite.
Oui, bien sûr, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils partageaient...
C'est une élection censitaire, quelque part. Hein. C'est un corps électoral, quand même, qui est malgré tout extrêmement, extrêmement restreint, 560
votants. C'est deux fois plus qu'une sénatoriale, hein.
Je ne vous le fais pas dire.
Sarah Bellouezane, pour continuer sur cette question, et notamment sur l'importance qu'ont pris les territoires. Il faut bien comprendre, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été abordé au cours
de cette
élection.
C'est vrai que les territoires sont considérés d'habitude un peu comme les parents pauvres de l'élection, parce qu'ils ont moins de voix que les fédérations. Mais là, cette fois, en fait, ils ont décidé de se faire entendre. C'est que pendant la campagne, Patrick Martin, qui est président de la fédération Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes,
président de la région.
Oui, absolument. Pardon pour le terme. Lui, en fait, beaucoup des piliers du MEDEF, de président de fédération, il disait, il s'en sort très bien, il fait une belle campagne, il a des belles propositions. Et lui, en fait, cette espèce de candidature a montré aussi que les territoires avaient plus de place. Et puis, Geoffroy Houdbézieux lui-même, en fait, dit à beaucoup de gens qu'il a labouré les territoires, qu'il est allé se faire connaître, qu'il est allé entendre leurs desiderata pour ensuite le faire porter leur voix.
Alors, pour bien comprendre, Michel Offerle, est-ce que ça veut dire que l'élection de Geoffroy Houdbézieux se fait sur une majorité, on va dire, inédite et étonnante, et qu'elle repose avant tout sur un nouvel élément? Donc, si j'ai bien compris, on oppose en quelque sorte les fédérations au territoire. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu plus précisément pourquoi. Et est-ce que ça veut dire que sa victoire politiquement, presque, on pourrait dire, repose sur d'autres éléments que précédents patrons?
On aurait vraiment besoin de beaucoup plus de temps pour expliquer qu'est-ce que c'est véritablement que la confédération MEDEF.
Je vous fais confiance sur la concision.
Bon, et donc sur la concision, simplement, donc, pour revenir sur les modalités de l'élection, industrie-service, à la fois ça ne veut plus rien dire pour toute une série de gens, puisque également toute une série de services ne sont finalement que le prolongement donc, de l'industrie. Et c'est des services, pas aux particuliers, mais c'est des services aux entreprises. Il n'en reste pas moins que, justement, à l'Assemblée Générale, certaines personnes que j'ai pu voir m'ont dit on a malgré tout voté pour la fidélité interindustrielle. Et donc certaines fédérations ont voté pour l'UMM parce que c'était une industrie. Bon. Deuxième point, en ce qui concerne la majorité, je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de majorité. Hein. C'est-à-dire qu'une confédération, ça fonctionne au consensus. On ne vote pas au conseil exécutif, ou très très rarement. Et donc,
Je ne le confirme jamais.
Hein, sauf une fois peut-être dans les années 2000, si vous voulez. Bon. Et donc, ça veut dire que c'est constamment donc, un agencement de poids, de contrepoids, avec parfois éventuellement. Hein. Je me souviens, c'est ce que vous m'aviez dit lorsqu'on s'était vu il y a quelques années, bon, parfois on a des balles molles, quoi. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de compromis et on n'arrive pas en quelque sorte parce que ça va fâcher telle fédération et que telle fédération pèse du poids.
Et c'est difficile de concilier finalement. C'est-à-dire que, par exemple, si on compare à des syndicats, même si ça doit être aussi difficile à la CGT, à la CFDT ou à Force ouvrière, de concilier les fédérations nationales et locales.
C'est la même chose. Une confédération, c'est une confédération.
Bah, je peux donner un exemple. Vous avez, par exemple, la mise en place du CICE qui a concerné essentiellement des abattements de charges sur les bas salaires, entre au départ 1 et 2,5 SMIC. Quand vous avez la Fédération française des banques qui vous dit, mais attendez, moi j'emploie 120 000 personnes, mais ils ne sont pas au SMIC. Et donc, quand on met en place un abattement comme le CICE, ça ne me concerne pas. Vous avez l'industrie qui dit, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que dans l'industrie, on paye différemment. Puis quand vous avez l'hôtellerie-restauration qui dit, mais moi je suis très intéressé. Bon, quand il s'agit de construire le CICE, vous avez déjà les pouvoirs politiques qui disent, alors qu'est-ce que vous en pensez, comment on le co-construit. Puis quand il faut le déconstruire, morceau avalé n'a vite plus de goût, ça devient terriblement difficile. Et au MEDEF, c'est un mini-miracle qui se passe tous les jours quand on essaye d'avoir un accord, parce qu'il faut mettre des intérêts qui sont parfois très divergents.
Ça veut dire qu'on retire un certain nombre de dossiers de l'agenda, parce que lorsqu'il n'y a pas... Justement...
Ça arrive, effectivement, et parfois on a des balles molles où on a le sentiment de prendre un accord qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on espérait et qui fâche finalement un peu tout le monde.
Ou alors on n'a pas d'accord du tout, comme ça s'est passé en 2016 sur l'assurance chômage avec les contrats courts.
C'est vrai. Où on n'a pas d'accord parce que à la veille d'une élection, on n'a pas voulu prendre d'accord.
Alors, on aura l'occasion notamment de parler de cette question des discussions, de se mettre d'accord et du paritaire. Mais j'aimerais, que, pour terminer ce, un petit peu ce portrait
revenir au territoire
aussi de Geoffroy Roux. Ah, peut-être on reviendra au territoire, mais juste pour revenir aussi un tout petit peu à Geoffroy Roux de Bézieux et au contexte politique aussi dans lequel se situe son élection. On a beaucoup dit depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et je rappelais sous forme de boutade qu'ils avaient partagé en tout cas leur présence au sein de cette commission Attali il y a quelques années. On a beaucoup dit que l'arrivée d'Emmanuel Macron marquait finalement la victoire, et d'ailleurs Pierre Gadès l'a dit lui-même, la victoire des idées du MEDEF, et donc ça donne une position un peu compliquée pour le président, le nouveau président de ce syndicat. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibault Langsade? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une situation particulièrement opportune pour le syndicat? Nous étions jusqu'à peu le vice-président, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit?
Bon, d'abord, le patronat a toujours eu un exercice difficile avec un gouvernement de droite. Je ne dis pas que le gouvernement est totalement à droite, mais l'existence du patronat est toujours plus compliquée avec un gouvernement de droite. Là, on a un gouvernement qui est pro-entreprise, qui va assez loin, assez vite, et donc la difficulté que va avoir Geoffroy Roux de Bézieux, c'est de trouver les bons curseurs et la bonne distance vis-à-vis du gouvernement. Ne pas être dans l'incantation, l'exaltation, ne pas être dans la compromission, ne pas être dans l'opposition. Et donc, il va falloir qu'il trouve la bonne distance. Et ça reste un exercice compliqué. Je crois que Laurence Parisot, quand elle était avec, quand il y avait Nicolas Sarkozy, était un exercice là aussi compliqué. Alors, c'est beaucoup plus facile quand on est à MEDEF de combat, avec un gouvernement un peu démagogique sur certains points, doctrinaire sur d'autres, et puis qui n'avait pas une connaissance de l'entreprise comme a aujourd'hui les ministres qui sont présents. Donc, il va falloir qu'ils trouvent les bons curseurs, la bonne distance pour pouvoir représenter toutes les entreprises. Ça, c'est, à mon avis, l'élément le plus difficile qu'il va devoir mettre en œuvre le plus rapidement possible.
Sarah Bellouzane, sur ce contexte politique.
En fait, la question, c'est à quoi ça sert d'aller convaincre un gouvernement qui est déjà convaincu? Après, Pierre Gattaz s'est répandu en disant que c'était ses idées qui avaient gagné, qu'en fait, ce sont ses idées qui ont été appliquées
dans
par le gouvernement.
Dans une interview au Figaro. Qui a fait beaucoup de...
Oui, après, pas que. Il le disait régulièrement à chaque fois qu'il était interrogé par quelqu'un, même en privé. Là, c'est vrai que c'est bien sûr, les choses sont plus compliquées que ça et que le gouvernement Macron a son propre agenda. Mais à quoi ça sert d'aller tenter de convaincre un gouvernement qui est déjà convaincu? En fait, comment il va jouer un peu sur cette... Il va avoir une ligne de crête où il va falloir peut-être accompagner les réformes, mais comme disait Thibault Langsade, sans trop se compromettre. Et à côté de ça, le gouvernement est aussi dans une logique où finalement, à partir du moment où toutes les réformes favorables aux entreprises sont faites, on n'a pas forcément besoin d'un MEDEF qui soit très présent sur la scène française, en tout cas sur la scène politique, au même titre que les syndicats qui doivent tous revenir à l'entreprise, en fait.
D'autant plus que le MEDEF, dans ce nouveau monde que nous promet le président Emmanuel Macron, c'est un peu l'ancien monde, c'est un peu ringard presque, Michel Auferlet.
C'est effectivement ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que d'une certaine manière, Emmanuel Macron n'a pas attendu le MEDEF, quel qu'il soit, MEDEF Gattaz ou MEDEF Roux de Bézieux, pour pouvoir commencer un certain nombre de réformes favorables aux entreprises et aux chefs d'entreprise, si vous voulez. Bon, et donc, on peut penser que il suffit de regarder l'ouvrage d'Emmanuel Macron, donc
Révolution,
pour voir que le MEDEF, c'est aussi l'ancien monde comme les syndicats. Bon, alors avec cette différence, c'est que vraisemblablement, il y aura peut-être un peu plus de connivence entre Roux de Bézieux et Gattaz et Macron qu'il n'y en avait entre Gattaz et Roux de Bézieux, d'une part, et Macron, sans doute parce que Roux de Bézieux a un parcours un peu différent, et vraisemblablement aussi parce que, bon, même s'il ne s'est pas beaucoup engagé dans la campagne, Roux de Bézieux a été vraisemblablement plus macronien que filoniste pendant les mois justement de la fin 2016 et le début 2017. Mais même si vraisemblablement donc Roux de Bézieux a évité de montrer donc son tropisme macronien, mais vraisemblablement aussi il a dû soutenir donc un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont allés donc en première ligne pour conforter la candidature Macron.
Thibault Lanxa, quand vous parliez de la bonne distance, du bon curseur pour le nouveau président du MEDEF, c'est aussi ça la question qui va se poser à lui, c'est-à-dire quelle position adopter dans des discussions et notamment dans le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue social de manière un peu générale, quand on est face à un gouvernement qui ne croit plus trop à ses corps intermédiaires, au dialogue social.
Oui, mais Jean-François Bézieux a dit quelque chose qui était assez intéressant dans son discours, qui est de dire quand même le gouvernement n'a pas le monopole de l'intérêt général. Et ça, il faut quand même l'exploiter, c'est-à-dire qu'il faut comprendre. Le MEDEF, il y a trois missions du MEDEF, on peut le rappeler pour nos auditeurs. Le premier, c'est de représenter les entrepreneurs, d'être le porte-parole des entrepreneurs. Deuxième mission, elle est un peu archaïque, mais enfin elle existe et elle devra se réformer, c'est de gérer le paritarisme. Il faut rappeler que Malakoff-Médéric, la retraite complémentaire, l'assurance chômage, conseil des prud'hommes, médecine du travail, caisse d'allocation familiale, la co-gestion des URSSAF, tout ça, ce sont les syndicats et le patronat. Et donc, il va falloir le réformer. Pour certains, ça date du Conseil national de la résistance. Mais aujourd'hui, il y a 300 000 mandataires qui sont là, tout confondus, pour gérer le paritarisme. Et puis, le troisième point, c'est la gestion des accords nationaux interprofessionnels. Donc ça, c'est quand le gouvernement dira eh bien, mettez-vous d'accord avec les syndicats pour faire avancer tel et tel sujet. Et c'est là où il va falloir inventer un nouveau dialogue social avec les partenaires sociaux qui, eux aussi, doivent se rénover.
Alors Thibault Lanxa citait en effet les différentes instances dans lesquelles où se joue le paritarisme.
Ce sont des instances soit nationales, soit régionales.
Voilà. Mais beaucoup d'entre elles, en fait, tout ça va évoluer. Ne serait-ce que l'assurance chômage, par exemple, la question se pose. Parce que dans la loi qui est la loi pour mieux choisir son avenir professionnel, la portée par Muriel Pénicaud, qui est passée à l'Assemblée, qui arrive au Sénat dans quelques jours, là, il y a quand même plusieurs articles qui encadrent fortement le dialogue social autour de l'assurance chômage. Et Macron, lui-même, quand il était candidat, avait dit que finalement, les corps intermédiaires, leur rôle n'était pas sur la scène politique nationale et qu'il fallait qu'ils reviennent à l'entreprise et qu'il voulait nationaliser l'assurance chômage.
C'est un vrai sujet, néanmoins. Il ne l'a pas nationalisé. Le second point, c'est qu'il devait mettre un revenu universel. Il ne l'a pas fait, ou en tout cas, pour les travailleurs indépendants. Et que pour le moment, il ne fait pas sortir les corps intermédiaires de l'assurance chômage, il essaye de les laisser.
Est-ce
que le patronat restera? C'est un autre sujet.
Absolument, mais parce qu'il leur laisse un rôle.
Vous voulez dire que le patronat peut choisir de s'en aller comme ils l'ont déjà fait
Moi, je ne sais pas ce que fera Geoffroy Roux de Bézieux, mais à partir du moment où l'État est garant d'une dette de 30 milliards de l'assurance chômage et qu'on demande l'exercice impossible depuis maintenant 20 ans au patronat et au syndicat d'essayer d'équilibrer les comptes, il y a une probabilité non nulle qu'encadré par l'État, le patronat décide de sortir.
Mais là, c'est le cas. Là, ce sera encadré par l'État.
Le MEDEF n'est pas tout seul.
Bien sûr.
Et donc, que fait la CPME et
bien
que fait l'UDP?
C'est un vrai sujet.
Si le MEDEF s'en va.
Donc, qui sont d'autres syndicats.
Qui sont effectivement d'autres syndicats.
C'est un vrai sujet. Je disais juste que Denis Kessler, sous la présidence d'Ernest Antoine Salier, avait décidé de quitter le paritarisme. L'année d'après, ils ont refrappé à la porte de toutes les organisations. La troisième année, ils ont repris les strapantins et en visant la remise en place du MEDEF dans les postes de gouvernance.
Justement, parce qu'on parlait des territoires tout à l'heure.
Michel Leferlet.
Et les territoires sont doublement importants parce que d'une certaine manière, c'est là où il y a des véritables adhérents au MEDEF.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là,
C'est-à-dire que c'est une confédération. Et donc, les individus qui sont comptés comme adhérents au MEDEF sont des adhérents indirects. L'exemple typique, c'est quand j'ai interviewé Laurence Parisot, qui m'a dit, lorsqu'elle a été appelée par Ernest Antoine Sellière en 2003 pour faire partie du conseil exécutif, elle a demandé à ses conseillers, est-ce qu'on fait partie du MEDEF? Elle ne le savait pas. Parce qu'effectivement, il y a toute une série d'échelons. Et donc, toute une série donc de gens qui sont comptabilisés comme adhérents du MEDEF sont des adhérents, sans le savoir, et bien souvent des adhérents consuméristes.
Parce qu'on dit souvent, on a vu 800 000, un chiffre de 800 000, et puis tout d'un coup, il y a quelques années, en 2017, il y a une enquête qui a été menée, on est tombé tout d'un coup à 120 000.
23
000. Alors là, je laisse justement à la direction du MEDEF le soin de s'exprimer, parce que dans un livre que j'ai publié en 2013, je montrais que ces chiffres étaient manifestement faux. Je montrais également que vraisemblablement on était plus près de 200 000 que de 800 000. Et le résultat, c'est que j'ai été interdit d'antenne par Laurence Parizeau pendant un certain nombre d'années, si vous voulez. Bon. Et donc, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, il est nécessaire donc de faire un peu la clarté. Mais alors, en ce qui concerne les territoires, c'est là où il y a véritablement, si vous voulez, des gens qui sont engagés au sens sociologique du terme. Tous les gens des fédérations qui sont au MEDEF sont des gens qui vont au MEDEF dans le prolongement donc de leur activité professionnelle et sur leur temps de travail, si vous voulez. Notamment tous les cadres qui vont dans les commissions du MEDEF sont bien souvent payés sur leur temps de travail. Les bénévoles et également donc les militants, puisqu'ils revendiquent ce terme, ce sont des gens qui sont dans les territoires. Et ceux-là sont attachés bien souvent justement au mandat, qui peuvent apparaître au niveau national comme des espèces de hochets, et qui pour eux sont aussi des éléments à la fois d'implantation dans leur région et également donc des éléments d'estime de soi et également donc de reconnaissance sociale au niveau régional.
Alors il y a deux éléments dans ce que vient de dire Michel Auferlet, je vais vous laisser répondre Thibault Langsade et Sarah Bellozane. Évidemment la dimension régionale, on l'a compris, essentielle. Il y a aussi la dimension évidemment de la représentativité du MEDEF, et comme vous avez été interpellé, même si vous n'êtes plus, je le rappelle, à la direction depuis aujourd'hui, c'est la règle, Thibault Langsade, vous y étiez encore jusqu'à ce matin, on va dire, donc je vais vous laisser quand même répondre au nom de la direction du MEDEF, si vous voulez bien, sur cette question de la représentativité, et ce chiffre, on est passé de 800 000 à 123 000 en très peu de temps, finalement.
Bon, d'abord, le premier point qui compte, et c'est pas une pirouette, c'est de savoir quel est le nombre de salariés que nous représentons.
C'est un mode de calcul.
Et donc, aujourd'hui, le MEDEF représente à peu près 12 millions des salariés du secteur privé sur 16 millions. Donc, on va dire, on couvre au travers de nos accords 12 millions de salariés. Et il est vrai que par le passé, le comptage n'avait pas été fait comme il a été fait il y a maintenant quelques mois, et que l'on considérait que quand on prenait des accords au travers des différents de branches ou des accords nationaux interprofessionnels, on couvrait à peu près 800 000 entreprises. Et le comptage a été fait ainsi, en disant quand le bâtiment prend une décision, basque le bâtiment, la capacité de prendre un accord de branche, il coiffe tout le bâtiment, donc c'est toutes les entreprises du bâtiment. Et quand on a recompté cela avec des adhérents à jour de leur cotisation, au travers des territoires et des fédérations professionnelles, de façon brute, hein, celles qui cotisent, on est de mémoire, vous allez me corriger, à 126 000, 130 000 à peu près.
123 000. Bon.
Après, il faut juste rappeler, pour que nos auditeurs comprennent, il y a 3,9 millions d'entreprises en France.
Non, il y en a moins.
Si, je vais vous expliquer. Il y a à peu près 2 millions d'entreprises qui sont des travailleurs indépendants, statut unique. Donc déjà, vous pouvez les retirer. Et quand vous comptez les PME qui ont plus de 10 salariés avec un chiffre d'affaires supérieur à 1 million, vous avez 150 000 entreprises.
Vous étiez en charge des TPE et PME, donc vous connaissez bien.
Et donc 150 000 entreprises, globalement, on a plus de 80% de ces entreprises qui sont adhérentes au travers des territoires ou des fédérations professionnelles.
Ouais, les chiffres, encore une fois, évidemment, on peut les manipuler de toutes les façons qu'on veut, ça, en fonction évidemment de ce qu'on veut démontrer, Sarah Bellozane.
Pour sortir un peu des chiffres, ce qui est intéressant, c'est que le reproche, et une des critiques qui est faite au MEDEF sur cette question de représentativité, c'est qu'on dit finalement, les grands groupes, ils ne passent pas par le MEDEF parce qu'ils ont leurs propres instruments de lobbying, comme la FEP, ou alors ils vont directement en fait aller frapper à la porte des ministres, voire du Premier ministre, voire du Président aujourd'hui. Et puis par ailleurs, les boîtes de la nouvelle économie, elles, ne se sont jamais impliquées dans le MEDEF et n'envisagent manifestement pas de le faire.
Vous avez prononcé le mot, Sarah Bellozane, celui de lobbying. Et justement, c'est une des questions qui s'ouvre aujourd'hui sur à quoi sert le MEDEF. C'est la question que nous posons à l'occasion de l'élection ce matin de Geoffroy Roux de Bézieux à la tête comme nouveau patron des patrons. C'est évidemment l'expression consacrée. On en parle avec Thibault Langsade, qui jusqu'à aujourd'hui était vice-président du MEDEF, avec Michel Auferlet, qui est sociologue et connaît bien pour avoir publié plusieurs ouvrages, dont Les patrons en France à la découverte ouverte en 2017, et avec Sarah Bellozane, qui est journaliste au Monde et qui a suivi toutes ces élections.
France Culture, du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Et Michel Auferlé veut revenir sur la question de la représentativité, alors que moi je voulais avancer un petit peu sur la question du lobbying et de l'avenir du MEDEF. Mais allez-y, je vous en prie.
Juste
très
effectivement, parce que là aussi, si vous voulez, dans les chefs d'entreprise que je vois, donc qui sont de toute taille et de toute nature, bon, il y a une espèce de gamme extrêmement extrêmement large qui va, pourrait-on dire, donc de l'ignorance jusque à la distance, jusqu'à une attitude consumériste, et il y a un petit noyau qui se reconnaît véritablement dans le MEDEF. Alors, là aussi, je pense qu'il y a, on pourrait débattre longtemps pour savoir si c'est une représentativité démographique ou une représentativité économique. Je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que le conseil exécutif, quand on le regarde, il n'est pas du tout représentatif, si vous voulez, donc des patrons. Il est effectivement beaucoup plus élevé socialement que l'ensemble des patrons. Vous étiez l'un des rares chefs d'entreprise, de petite entreprise. Au début de votre mandat, vous aviez 20 salariés, quelque chose comme ça, ce qui était une exception. Généralement, c'est soit les grands groupes. Et puis également, il est très en décalage, ça c'est ce qu'on oublie très souvent de dire, du point de vue diplôme. Vous avez donc un conseil exécutif qui est hyper diplômé, avec notamment des énarques. Là aussi, on oublie là aussi qu'il y a quand même également des énarques qui sont des apparatchiks patronaux qui siègent au conseil exécutif, et qui ne sont pas du tout représentatifs du point de vue des diplômes des patrons de base. Les patrons sont justement l'une des catégories socioprofessionnelles les plus étirées du point de vue diplôme.
Face à cette disparité, Thibault Langsade, est-ce qu'il pourrait apparaître comme des facteurs un petit peu de conservatisme et d'immobilisme du MEDEF? Comment faire évoluer ce syndicat dans un contexte, on l'a dit, où on a un gouvernement qui veut remettre un petit peu la main sur ce qui était ce qu'on appelle le paritarisme, et donc ce qui était la prérogative des syndicats, dans un contexte aussi où peut-être il y a la nécessité d'évoluer, de faire naître des idées, d'accompagner une économie en mouvement?
C'est tout le sujet pour Geoffroy Roux-Bézieux, parce que je voudrais rappeler à nos auditeurs, mais ça a été exprimé, c'est une confédération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fille dont les maisons mères sont les MEDEF territoriaux et les fédérations professionnelles. Et vous existez au MEDEF en fonction du poids de votre cotisation. Donc, quand vous regardez les premiers contributeurs,
qui sont les banques,
les assurances, l'UMM, eh bien, vous avez aujourd'hui un système qui, effectivement, ne représente plus très exactement le tissu économique. Parce que vous avez pas le rapport poids-puissance de l'industrie aujourd'hui n'est pas tout à fait le même qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, le poids du médicament, le poids de l'industrie pétrolière, le poids de l'industrie de la Fédération de l'électricité est plus le même qu'il y a 20 ans. Et donc aujourd'hui, on a encore une organisation qui ne représente pas tout à fait la réalité économique. Et donc un des défis qu'aura Geoffroy Roux-Bézieux, c'est de faire en sorte qu'il puisse rééquilibrer, soit par des personnalités, je veux dire, c'est que qualifier des personnalités de grandes entreprises, de petites entreprises, de moyennes entreprises, et puis de corriger, en tant que de la meilleure façon que l'on puisse faire, ce poids. Mais il y aura un deuxième sujet qui sera compliqué, c'est que la volonté qui est maintenant tracée quasiment pour les organisations patronales, c'est de vivre essentiellement des cotisations de ses adhérents. Et aujourd'hui, sur un budget de 40 millions, le MEDEF perçoit à peu près 12 millions de l'État ou du système paritaire. Se supprimer d'un tiers de son budget sur une trajectoire qu'il faudra déterminer, est-ce que c'est de 5 ans ou 10 ans, eh bien il faudra également revoir le système de cotisation qui aujourd'hui joue un rôle clé dans la gouvernance du MEDEF.
Juste pour terminer là-dessus, et après je ferai réagir les deux autres invités, mais pourquoi cette volonté de vivre, donc de se priver finalement des revenus du paritarisme, pour le dire comme ça, et peut-être d'autres formes de revenus, pour reposer essentiellement sur les cotisations?
Je pense qu'il y a une volonté très forte de faire en sorte que l'ensemble des organisations puissent puiser leur légitimité sur leurs adhérents. Et vous avez aujourd'hui des syndicats dont leur préoccupation première n'est pas aller chercher des adhérents. Et alors, je peux le dire de façon très claire, sans que je me fasse retourner, la CGT, FO, elles ont besoin d'adhérents au moment où il faut se compter pour pouvoir exister dans le panel syndical, mais leur quotidien n'est pas d'enrôlé. Ils ont des budgets qui fonctionnent de façon différente, ils ont des réserves, ils ont un parc immobilier très fort, et donc, leur souci premier...
Attention, ils doivent quand même renouveler parce qu'aujourd'hui,
les revenus des cotisations émanant des salariés est un poids très faible dans le fonctionnement de ces syndicats. Et je pense qu'on y voit là une volonté d'exemplarité du MEDEF.
Mais se priver aussi des fonds du paritarisme, ça permettrait au MEDEF finalement de se s'en retirer si d'aventure il fallait le faire.
Non, je ne le verrai pas comme ça.
Et parce que le paritarisme a quand même été un débat là pendant la campagne. Beaucoup de patrons de fédérations se sont exprimés.
Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les revenus du système paritaire, qu'est-ce qu'on en fait ? On fait la promotion de l'apprentissage, on fait la promotion de choses très belles. Hein.
Oui, mais comme ça, ça permet d'avoir certains piliers le disent, ça permet d'être indépendant en fait finalement.
Ah bah le fait de ne plus percevoir cette somme est indépendant, exactement.
Je voudrais entendre Michel Offert sur cette
alors,
question.
Alors il y a des fédérations qui n'ont pas ce problème d'adhérents puisque l'adhésion est obligatoire, c'est la banque par exemple, c'est l'assurance, les constructeurs automobiles sont 5, adhèrent tous, les pétroliers, etc. Ce sont les fédérations à nombreuses entreprises. Alors donc il y a plusieurs politiques. La politique de la fédération du bâtiment, c'est une politique justement de recherche d'adhérents. Avec ils ont d'ailleurs le même système que la CFDT. Ils ont des développeurs qui proposent une mallette d'adhésion en fonction effectivement des caractéristiques socio-professionnelles donc des individus qu'ils ont en face d'eux. Par contre, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que la restauration ne fait pas véritablement de campagne d'adhésion et vit essentiellement sur le fait que on adhère à l'UMI parce que ça fait des réductions sur vis-à-vis de la SACEM lorsqu'on diffuse de la musique dans un café, si vous voulez. Bon, c'est complètement autre chose, si vous voulez. Bon, et donc vous avez toute une gamme donc et également bon troisième exemple Syntec qui est donc à la fois le numérique, la formation professionnelle, etc., etc. Bon, le Syntec ne veut pas s'embarrasser de beaucoup d'adhérents. Pourquoi? Parce que ça rapporte peu et ça coûte cher. Ce que fait la Fédération du bâtiment, c'est 300 000 appels. Il gère 300 000 appels téléphoniques par an. Le Syntec ne veut pas avoir justement un SOS pour les petites boîtes d'informatique et donc demande que la boîte, je crois, ait 3 ans d'existence et au moins 3 ou 4 salariés pour pouvoir adhérer. Donc là, il y a véritablement, alors je ne sais pas ce qu'un président du MEDEF, soi-disant patron des patrons, peut faire, c'est véritablement une réforme intérieure pour essayer de créer une affectio societatis au sein du MEDEF. Un MEDEFien, qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle ?
Pour l'interrogation, alors que par exemple un CGTiste ou un CDTiste, on a peut-être une meilleure idée, Michel Offerlé. Mais alors, malgré tout, le MEDEF est là, on a parlé beaucoup de son fonctionnement, il est là aussi comme une marque puissante, ce sont les termes là encore de Pierre Gattaz dernièrement. Et alors, quel rôle il peut jouer? Je l'ai sous-entendu à plusieurs reprises au cours de cette campagne, Sarah Bellouezane, il a été évoqué l'idée que le MEDEF pourrait devenir plus une forme de lobby. Alors vous l'avez dit, peut-être que les grandes entreprises notamment n'ont pas forcément besoin du MEDEF pour faire leur propre lobbying, et ou alors une forme de think tank, c'est-à-dire produire des idées, un groupe de réflexion, parce que c'est aussi un reproche qui a été fait au MEDEF. Le MEDEF ne produit plus assez d'idées sur l'économie, le monde de l'entreprise tel qu'il évolue aujourd'hui.
Ces derniers temps, on reprochait au MEDEF de ne pas être assez, d'avoir été trop un MEDEF de combat et pas assez un MEDEF de proposition, ce sur quoi manifestement Geoffroy Roux-de-Vézieux veut revenir, puisque lui il veut faire des propositions. Certains ont évoqué l'idée, en effet, que ça devienne un lobby qui accompagne les réformes. Et puis d'autres disent, pourquoi pas un think tank, un cercle de réflexion où on pourrait émerger des idées sur l'avenir de l'entreprise, sur comment faire en sorte de convaincre le gouvernement de faire ceci ou cela.
Michel Ferlé.
Alors, deux points, justement, sur la présidence Gattaz. En ce qui concerne justement donc le fonctionnement, je me souviens le premier entretien que j'ai eu avec Pierre Gattaz, que je ne citais pas donc en exergue de mon ouvrage. La vraie vie, le MEDEF, tout ça c'est très sympathique, mais la vraie vie c'est de prendre des commandes quand même. Bon, et donc d'une certaine manière, il n'arrêtait pas de me dire pendant tous les entretiens que j'ai eu avec lui que le conseil exécutif c'était un peu ennuyeux pour ne pas dire plus, parce qu'on parlait essentiellement des questions sociales et que lui, ce qui l'intéressait, c'est qu'on parle justement des questions de business. Alors est-ce que justement ça a changé sous sa présidence? Est-ce que, comme son père disait, 80% de social, 20% d'économique, moi je veux renverser justement la table et faire qu'on parle beaucoup plus d'économie et beaucoup moins de questions sociales. Deuxième point en ce qui concerne justement le rôle de think tank, là aussi beaucoup de points d'interrogation. Les organisations patronales n'ont jamais été, contrairement aux organisations syndicales, des organisations doctrinales. Les deux seules fois où il y a eu une tentative doctrinale, ça a été en 65, avec la charte libérale qui était tout à fait étonnante dans le paysage d'économie dirigée de l'époque et qui a fait un pchit. Il y a même eu des démissions après le vote de la charte libérale par l'Assemblée générale de 65. Et puis le deuxième moment, c'était le tournant Kessler avec l'appui sur les théories sociologiques d'Ulrich Beck et la société du risque. Et j'ai pas l'impression que les adhérents du MEDEF étaient très très intéressés par Ulrich Beck.
Bon, après il faut revenir à la réalité. La réalité, elle est quand même dictée en partie par le rythme gouvernemental. En France, vous avez deux exercices chaque année, c'est le PLF, PLFSS. Et donc là, vous mesurez la pression fiscale
sur les entreprises,
projet de loi de finances, projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ce sont des prélèvements. Est-ce qu'on tend sur une harmonisation européenne ou pas? Là, c'est un grand combat chaque année du MEDEF sur ces deux exercices. Puis après, vous avez tous les projets de loi. Et ce que l'on oublie quand même de dire, parce que à quoi sert le MEDEF? Aujourd'hui, le MEDEF, c'est un petit Matignon. Aujourd'hui, pendant 5 ans, nous avons interagi avec tous les ministères.
Vous voulez dire que le MEDEF gouverne?
C'est pas ça. Non, c'est une image.
C'était une mauvaise
idée. C'est une image. Mais je vais vous donner un exemple qui est peut-être au dehors du champ économique. Aujourd'hui, un de nos interlocuteurs privilégiés avec qui nous interagissons tous les jours au quotidien, c'est le ministère de la Défense. Il va monter la garde républicaine. Où est-ce qu'il va puiser les cadres pour constituer la garde républicaine? Dans les entreprises. Quelles sont les modalités qui permettent de pouvoir mettre en place ces cadres dans l'armée? Ben, vous discutez avec le MEDEF. Vous discutez avec le MEDEF sur la façon dont vous pouvez les relayer sur les délais de prévenance. Quand vous avez un ministère qui est les affaires étrangères et que vous avez des problèmes en Iran pour porter les sujets économiques, avec qui vous discutez? Vous discutez avec le MEDEF. Et quand vous avez le ministère de l'Intérieur qui parle du fait religieux en entreprise, des problématiques de radicalisation, avec qui vous discutez? Avec le MEDEF pour savoir comment vous pouvez adapter les différentes contraintes en entreprise et prévenir. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas un ministère qui échappe soit à la vigilance du MEDEF ou le gouvernement souhaite en être en interaction. Et là, ça se passe très bien. On n'est pas du tout dans des postures ou dans des combats. On appelle les permanents, on demande aux élus, aux chefs d'entreprise en disant si on prend cette mesure-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien, pas bien? Et donc, c'est ça aussi le rôle du MEDEF. Et là, on n'est pas dans une logique d'influence. On est dans une logique de consultation de l'avis, on va dire, des entrepreneurs. Et ça, c'est 80% du temps des permanents et des élus. Et donc, quand vous avez un projet de loi en ce moment, droit à l'erreur ou la loi Pacte, eh bien, quand on baisse les seuils dans les PME vis-à-vis des commissaires aux comptes, bah, vous interrogez les chefs d'entreprise en disant est-ce qu'on prend une bonne ou une mauvaise mesure? Quelles sont les mesures correctives? Et là, ça se passe de façon très consensuelle. Et c'est tout ce travail-là que l'on ne voit pas, qui est difficilement audible, parce que on voit les grandes gesticulations médiatiques, le dialogue social, mais le quotidien aussi de notre organisation, c'est d'interagir avec tous les ministères sur le quotidien des entrepreneurs.
Quand on veut augmenter la taxation sur les contrats courts, ça se passe un petit peu moins bien.
Bien sûr, Michel.
Oui, alors, la limite de votre comparaison avec Matignon, c'est que justement, le patron des patrons n'a pas autorité sur
ses ministres. C'est vrai, c'est pour ça que je donne une comparaison sur la diversité des sujets.
C'est une comparaison, si vous voulez, avec également, bon, même si Matignon n'a pas une, si vous voulez, n'est pas une administration très développée, n'oublions pas là aussi que le MEDEF, je parle du MEDEF fêtier, c'est 40 millions donc à peu près de budget.
200 permanents.
Sur, si vous voulez, à peu près donc entre 800 millions et 1 milliard d'euros si l'on prend toutes les fédérations et les territoires. Avec combien de permanents pour faire tout ça? Permanents cadre, une centaine. Donc là aussi, vous êtes constamment au four et au moulin, même si vous avez donc des bénévoles qui viennent des entreprises, dans les commissions. En tous les cas, à la fois, on a l'impression que c'est le patron des patrons qui décide, mais d'une part, il est donc constamment pris en tenaille entre les différents intérêts des fédérations, et puis il n'a pas une administration tentaculaire pour pouvoir justement donc, agir
partout. Il n'y a pas de technostructure, en fait.
On comprend qu'il y a une sorte de paradoxe, en définitive, c'est-à-dire une forme de centralité du MEDEF que vient de décrire Thibault Loxal, avec une certaines faiblesses, malgré tout,
non,
que
mais c'est,
que décrit
c'est
Michel Leferlet.
Le fait pas le lobby sectoriel.
Non, et c'est aussi, si vous voulez, donc une espèce de paratonnerre, hein, c'est-à-dire que dans les manifestations, c'est le MEDEF, c'est le patronat, c'est l'ennemi, etc., etc. Pour les journalistes, le MEDEF, c'est la voix des patrons, et pour le gouvernement, c'est aussi l'interlocuteur. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, exactement? C'est toujours ça, l'ambiguïté de la formule patron des patrons, si vous voulez. Qu'est-ce que patronne exactement le patron des patrons?
Un dernier mot, Thibault Langsat, sur cette question. Qu'est-ce que patronne le patron des patrons? On arrive au bout, puisque s'ouvre...
Le vrai sujet, en tout cas, c'est qu'on est le porte-parole des entrepreneurs. C'est ça qu'il faut garder. Et je pense que pendant longtemps, certains présidents ont eu de l'ambition pour le mouvement. Je pense qu'il faut faire un deuil sur cette ambition du fait qu'on rehausse notre image dans le cœur des Français. Ce qui est important, c'est de valoriser l'action des entrepreneurs. Et depuis ces dernières années, jamais les chefs d'entreprise, patrons de PME, TPE, n'ont figuré en aussi bonne position dans les classements des acteurs économiques pertinents pour la France.
Merci à tous les trois, Thibault Langsade, Michel Auferlé. Je rappelle, le dernier ouvrage, Les patrons en France, est à la découverte en 2017. Sarah Belloisin, on peut évidemment vous lire et continuer de vous lire dans les colonnes du Monde. Le grain à moudre d'été, c'est terminé. L'émission a été préparée ce soir, comme chaque soir, par Laïla Saïdi, Camille Ferré, Céline Leclerc, Marine Le Rouget et Imen Mélaz. À la réalisation, c'était Anne Despelchin. À la prise de son, Clément Daté.